Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un monde de guerre. Il y a beaucoup de guerres. Le monde veut bien arriver à la paix, mais apparemment, il vit sur la guerre. On connaît la guerre depuis très très longtemps. Parfois, la raison de la guerre, l'ennemi, c'est un peuple qui n'aime pas l'autre peuple. Parfois, c'est basé sur une idée idéologique. Il n'est pas d'accord avec la façon comment il se comporte l'autre peuple. C'est pour ça qu'il n'aime pas. C'est pour ça qu'il fait la guerre. Parfois, c'est une autre raison, une raison politique. Ou bien, je trouve que ce qu'il possède, ça devrait être à moi. Parfois, c'est tout simplement, ils pensent des choses qui n'est pas réelles. Ils pensent que donc un peuple, ils pensent sur l'autre peuple qui des choses que c'est pas réel. Donc alors on crée une guerre, ce qui devrait pas être, parce que toute la guerre est basée sur une idée erronée. Parfois ça arrive tout simplement par la haine. On n'aime pas, il n'y a pas de raison, on n'aime pas. Parfois on peut dire que on a l'impression que c'est une idée idéologie, mais en vérité, c'est pas idéologie, c'est carrément, il y a une haine. Une haine qui n'explique pas. Mais justement, moi-même, je veux pas dire, je peux pas faire des choses contre l'autre parce que en disant que je l'aime pas, donc alors, je trouve une idée. Si c'est pas une idée, c'est une autre idée. Donc ça, c'est entre peuples. Mais en vérité, ce même problème existe dans le peuple, parmi les peuples eux-mêmes. Il y a des peuples qui à l'intérieur de ces peuples, qui se battent. À l'intérieur, on n'est pas d'accord. Là aussi, il y a toutes ces idées. Parfois, c'est une idée idéologie. Parfois, c'est une idée de jalousie. Parfois, tout simplement, je ne peux pas supporter l'autre. Alors, tout ce qu'il fait, ça ne va pas. Donc, alors, je trouve des raisons, soi-disant. Et que moi aussi, je crois à ses raisons, je pense que je peux pas supporter l'autre, parce qu'il a fait telle et telle chose, parce qu'il pense telle et telle chose. Mais en vérité, j'ai un problème, un vrai problème profond, que je peux pas supporter l'autre. Donc alors, cette idée peut exister entre les peuples, mais ça peut être, exister à l'intérieur d'un peuple, ou même à l'intérieur d'une famille. C'est vrai qu'ils vont se réunir, ils vont faire la paix lorsqu'ils ont des ennemis en commun. Mais lorsque, d'un coup, on n'a plus d'ennemis en commun, alors à ce moment-là, on trouve ces mêmes problèmes à l'intérieur de nous. Et on peut dire que parfois, et très souvent, le problème, c'est pas que l'autre me dérange, c'est parce que moi, j'ai un problème à l'intérieur de moi. On a besoin de, comme ça, on appelle dans d'autres langues, un action. Quelque chose qui bouge, j'ai besoin d'un adversaire pour que ma ville elle soit beaucoup plus intéressante. Imaginez-vous, en fait, on n'a pas besoin d'imaginer, mais quand même, que le monde coule normalement, c'est parfois un petit peu ennuyant, c'est pas intéressant. C'est pour ça que très souvent on trouve, par exemple, à l'école, un enfant qui dérange l'autre. C'est possible parfois qu'il dérange parce que il lui dérange au niveau idéologique, par jalousie, mais parfois tout simplement, il n'a pas grand-chose à faire, c'est un enfant qui dérange l'autre, et il a besoin de créer une énergie, il a besoin d'avoir un ennemi pour lui-même, pour sa propre vie. Donc, il a un ennemi. Que cet ennemi, soi-disant, c'est pour une raison, pour une autre raison, et parfois il est vraiment, il pense, celui qui dérange, qui ennuie l'autre, il pense qu'il est ennuyé par l'autre, c'est pour ça qu'il le fait. Mais en vérité, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Donc alors, il trouve un ennemi et il a des raisons. Il dit, voilà, il a fait ça, il pense comme ça, il se comporte comme ça. Mais en vérité, le vrai problème, c'est à l'intérieur de la personne lui-même. On trouve quelque part le conflit partout. Pour le travail, on a besoin parfois de faire mieux que l'autre pour gagner le travail. Donc, alors, quelque part, la guerre fait partie de notre vie et fait partie de notre poursuite. Selon la vision de la Torah, on voit que la guerre commençait depuis le début, tout au début de notre histoire. Ça commençait déjà par Adam et Ève. Mais en vérité, ça commençait déjà par... ça commençait déjà par Caïn et Abel. On trouve que deux personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait deux personnes, selon la tradition, ils ont eu des sœurs jumelles, ou plus qu'une sœur jumelle chacun. Et donc, et pourtant, ils ont fait le souci, qui va hériter le monde. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de raisons de cette guerre, mais on trouve la guerre depuis très longtemps. Mais en vérité, on peut dire que la guerre, c'est à l'intérieur de nous. On était créé de telle manière qu'on a toujours une opposition. Il y a une histoire biblique qui raconte que il y avait le deuxième des patriarches qui s'appelle Isaac, Yitzhak, qui s'est marié avec Rivka. Au bout de 20 ans, finalement, elle tombe enceinte. La grossesse est très difficile. Elle ne comprend pas pourquoi. Pourquoi c'est tellement dur. Et donc, elle va voir le prophète de l'époque qui était Shem. Et lui, il dit, ne pense pas que tu as un enfant, tu as deux enfants. Et alors, ce n'est pas la seule qui a eu deux enfants. Et pourtant, pourquoi la grossesse est tellement difficile. Donc, il lui explique qu'en vérité, c'est pas deux personnes seulement, c'est deux personnalités que depuis maintenant, depuis leur ventre, ils sont déjà différents. Alors, bien sûr qu'il faut comprendre pas mal de choses, mais en tout cas, cette même notion... Alors, c'est vrai que finalement, c'était effectivement deux enfants qui sont tellement opposés, qu'ils ont créé des peuples qui sont opposés toujours. Donc, on a le peuple d'Israël d'une part, et le peuple d'Esav qui a créé le peuple qui était toujours opposé. Il était toujours opposé, mais depuis le début, il était opposé. On trouve dans la Torah qu'il était opposé à Yaakov. Et donc, ça, c'est une histoire vraie d'une part, mais quelque part, ça nous, si on le prend de façon beaucoup plus large, on peut dire que comme chez Rebecca, à l'intérieur d'elle, donc il y avait deux jumeaux qui étaient carrément opposés l'un de l'autre, et depuis le ventre, ils ont été opposés. Quelque part, on peut comprendre, on peut trouver ici, même si au niveau compréhensible, c'est pas tellement logique, mais on trouve que dans le fond, ils ont été différents déjà depuis le début. Donc, la guerre, les guerres qui se sont produites après entre Esav et Yaakov, même si qu'il y avait des raisons, pour telle raison, mais en vérité, c'était quelque part prévu. C'était avant même qu'il y avait la raison pourquoi faire la guerre, ils ont été déjà différents et prêts à attaquer. Donc, à partir de là, on peut comprendre que la guerre, on trouve l'ennemi à l'extérieur de moi, mais en vérité, l'ennemi se trouve à l'intérieur de moi. On a deux vision de la chose, deux mouvements à l'intérieur de nous. Parfois on est attiré par quelque chose de bien, et parfois on est attiré par quelque chose de mauvais, et parfois on est attiré en même temps, comme un yo-yo, on ne sait pas trop. Et ça, c'est un problème qu'on peut l'appeler un problème psychologique, mais en tout cas, l'homme, parfois il ne sait pas trop ce qu'il veut, parfois il est attiré à droite, et parfois il est attiré à gauche. Et cette idée, c'est pas seulement parfois, chaque personne elle a un petit peu cette déchirure entre bien et de mal. Et c'est pour ça que parfois il fait du bien, parfois il fait du mal, comme ça expliqué ailleurs, comme par exemple dans le livre de Tania, qu'il explique les deux âmes à l'intérieur de chacun qui se bat très souvent, toujours même, mais en tout cas presque toujours. Là, il nous pousse vers tout ce qui est bon. Et là, il nous pousse vers tout ce qui est mal. Alors, quand on dit tout ce qui est mal, pas chacun a envie de faire du mal, et tout ce qui est mal. Mais en tout cas, d'une façon générale, cette même âme, elle pousse certains, à tel point qu'il y a certains qui veulent faire le plus mal possible, mais il y a certains que c'est des mal relatifs, c'est un peu d'être égoïste, etc. Mais il y a chez certains que ça va à l'extrémité. Et c'est aussi pareil pour le côté positif. Il y a un qui est poussé un petit peu vers la positivité jusqu'à le moment où il y a un qui est poussé carrément vers la spiritualité. Donc alors, mais on a toujours à l'intérieur de nous cette guerre. Donc finalement, on peut dire que la guerre n'était pas créée forcément à cause d'une raison ou d'une autre. Mais quelque part, Dieu qui nous formait, il nous a créé comme ça, qu'il y a quelque part une guerre permanente. Après, cette guerre, elle est chaque adversaire. Il trouve une raison pourquoi, en quoi il n'est pas d'accord avec l'autre. Mais en tout cas, cette notion de guerre, cette notion de différence, on trouve à l'intérieur de nous. Alors à ce moment-là, on se pose la question, donc ça veut dire qu'on est formé à être toujours en guerre. Alors on va prendre notre paracha, qui est notre paracha, elle s'appelle « Qui t'étse la milchama à l'oivera » lorsque tu pars en guerre contre tes ennemis. Et là, il y a des lois. C'est intéressant que, normalement, les lois de guerre, on a déjà parlé dans la paracha de la semaine dernière. Par exemple, comment il faudrait faire pour encourager les soldats qu'il ne tombe pas dans la détresse ou dans la dépression. Qui va en guerre? Comment, même au moment de guerre, il y a une notion de respect de la nature? Il y a beaucoup d'autres choses qu'il est marqué déjà dans la paracha de la semaine dernière. Donc, on trouve pas mal de lois de la guerre. Dans notre paracha, il parle presque pas de la guerre. C'est l'étude de notre paracha lorsque tu sors à la guerre. Mais de ce qu'on parle, c'est carrément quelque chose, ok, c'est une loi quand même qui est liée à la guerre. Je ne vais pas développer aujourd'hui cette idée, mais quelque part, à la guerre, à l'époque, il y avait des femmes qui étaient là pour attirer les yeux. Alors la Torah nous dit qu'il faut la respecter. Ça veut dire que même si finalement tu as gagné la guerre, et finalement elle est tombée dans tes mains, il faut, tu peux te marier avec elle, mais à condition que la Torah nous donne plusieurs conditions. Mais l'idée générale, c'est qu'on ne peut pas comme ça faire. Il faut lui laisser à moi, par exemple, et il faut voir. En tout cas, il y a pas mal de choses de respect ici, avant même qu'il va faire ce qu'il veut faire. Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, c'est intéressant que même si la Torah nous parle de la guerre et d'un cas exceptionnel, mais la Torah nous donne pas mal de messages grâce à ce passage, comment il faut se marier. Donc alors, avant qu'on se marie, il faut, quelque part, il ne faut pas prendre ce qu'on a envie tout de suite parce qu'elle est belle. Il faut voir est-ce qu'elle me correspond ou non. Donc, quelque part, c'est un grand leçon. Si on aurait pris ces leçons, on aurait eu beaucoup moins de problèmes dans notre vie, beaucoup moins de divorces, parce que c'était un mariage intelligent et pas un mariage comme ça de qu'il y a une folie de cœur, un moment que ça arrive, un moment que ça part, mais ça c'est entre parenthèses. Il y a mais c'est de ça que, donc on a dit que la Torah, le nom de la paracha, c'est lorsque tu vas en guerre. Finalement, on parle presque pas de la guerre, on parle donc tout au début du cas où quelqu'un il a pris une femme qui était là dans la guerre, mais elle était là justement pour attirer les yeux, pour comme il le moquait. Donc finalement, elle était prise comme butin, je ne sais pas comment il faut dire. En fait, elle était prise, mais à ce moment-là, la Torah nous dit comment il faut la respecter, même si elle était ennemie autrefois. Comment il faut la respecter? La Torah, entre-temps, nous dit comment il faut, même si elle parle de ce cas, mais d'une façon générale, on peut apprendre comment le respect. le respect malgré tout, même si il s'agit de mon ennemi, mais le respect malgré tout. Mais finalement, cette paracha, elle parle surtout de... Il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Mais il y a beaucoup de mitzvot qui sont liées entre Ima, comment se respecter. Par exemple, qu'il faut payer les salaires tout de suite, il ne faut pas attendre. Par exemple, que lorsqu'on a un employé qui travaille dans mon vigne, il faut lui laisser goûter ou même manger de ce qu'il travaille dans certaines conditions. Il y a beaucoup d'autres lois qu'on trouve dans notre paracha. Et pourtant, le nom de la paracha, c'est lorsque tu sors en guerre. Donc, on ne parle pas du tout de guerre, peut-être tout au début, mais on ne parle pas du tout de guerre. De là, on peut comprendre une autre idée, que la vie courante, avec toutes les difficultés qu'on a, ça s'appelle aussi la guerre. On est dans un monde de guerre, on a des difficultés, donc ça s'appelle la guerre. Alors, la Torah qui nous donne des mitzvot, quelque part, elle nous dit comment il faut se comporter au moment de la guerre. Parce que notre vie, c'est une guerre. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la vie, notre vie intérieure, c'est une guerre. À l'intérieur de nous, on a la guerre. La guerre, elle peut être dans de différentes manières. Je fais ou je ne fais pas. Je dérange l'autre ou je ne dérange pas l'autre. Je peux passer par la nourriture. Je mange ça ou je ne mange pas ça. C'est dangereux pour la santé. Je le fais, je ne le fais pas. Et ou bien beaucoup d'autres choses que parfois c'est un vrai conflit à l'intérieur de moi. Non, je vais le faire quand même parce que j'ai envie. Non, tu dois pas le faire parce que c'est pas bon, parce que ça va te déranger après, parce que pour telle raison, pour une autre raison. Mais notre vie, ça c'est clair, est liée avec l'idée de la guerre. Alors, très souvent, puisque j'ai une guerre intérieure, ça provoque une guerre extérieur, puisqu'à l'intérieur de moi, je suis en conflit. Ce conflit, elle sort dehors, et parfois, je suis opposé à l'autre, pas parce que j'ai entendu ce qu'il a dit, c'est parce que je suis en guerre avec moi-même. Donc, il y a ce qui sortir mon énervement, ma colère. Alors, quelque part, la guerre était prévue dans notre vie, avant même qu'on a si on peut dire l'adversaire, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ont besoin de faire la guerre contre quelqu'un. Alors si on a un ennemi en commun, ça va. Si on n'a pas un ennemi en commun, alors parfois le conflit est à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans la famille, ça peut être autrement. Ça veut dire que finalement, ce conflit commence par nous-mêmes. On a un problème chez nous-mêmes. Donc alors, on pose bien sûr la question, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. On ne comprend pas tout ce que Dieu il dit, mais ce qu'on sait, qu'on doit être en conflit. Mais l'idée de la Torah, c'est plutôt... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le but, c'est pas la guerre, le but, c'est le billet qui sort de la guerre. À partir de là, on a toute une autre vision de la guerre. Par exemple, on va prendre l'exemple politique. Il y a très souvent dans l'organisme politique, il y a des conflits. Parfois, bien, un bon conflit, parfois c'est des conflits qui n'ont pas de raison d'être là. Les gens qui commentent, les gens qui disent, ils disent des choses qui n'est pas vrai, ce n'est pas réaliste, et pourtant, ils doivent dire quelque chose opposé à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le côté, bien sûr, négatif des conflits, parce que le conflit lui-même, il est négatif. Maintenant, le côté positif, c'est que parfois, le conflit va nous amener à quelque chose de positif. Encore une fois, imaginez-vous un gouvernement qui a pas d'opposition. Tout va bien. Ça veut dire pas que tout va bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent peut-être en milieu de gouvernement, au milieu des pays, mais personne ne fait rien parce que le gouvernement est tranquille. Il n'y a pas d'opposants à ce gouvernement. Alors, si le jour il y aura quelqu'un qui va entendre la souffrance de certaines personnes quand on n'entend pas leur voix, à ce moment-là, d'une part, on va dire, mais qu'est-ce que c'est jusque-là, le Parlement était bien, il n'y avait pas de conflit. Là, d'un coup, il y a un conflit, et c'est pas bien. C'est vrai que d'une part, c'est pas bien, mais grâce à ce conflit, on va pouvoir arriver à quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas pu faire sans le conflit, parce que sans le conflit, on n'aurait pas avancé plus au niveau commercial. Au niveau commercial, parfois, les gens qui vivent bien avec... ils ne pensent pas développer de plus parce qu'ils vivent bien avec ce qu'il y a. Mais dès qu'il y a un conflit ou bien dès qu'il y a un adversaire, là, ça m'oblige à faire mieux. Et finalement, c'est bien pour le monde. Alors, encore une fois, il y a deux visions du conflit. On peut voir le conflit comme quelque chose de négatif, ce qui est vrai. Mais on peut voir, et parfois, le conflit, c'est pour le bien. Alors, parfois, ça se termine mal, le conflit. Mais l'idée même du conflit, c'est pour quelque chose de bien. Maintenant, selon cette vision, alors, est-ce que le monde il va rester toujours en conflit? Selon la vision messianique, c'est non. Peut-être qu'il y aura des conflits, mais pas le conflit d'aujourd'hui. Peut-être on peut donner un exemple encore. On sait que dans la vie juive, il y a beaucoup de conflits. Mais parfois, les conflits sont mauvais, ils n'ont pas de raison d'y être. Et parfois, les conflits, ils sont très positifs. Seulement qu'il faut savoir, finalement, mettre fin à ces conflits. On sait que le Talmud est rempli de conflits. On n'est pas d'accord, mais parfois, c'est très, très fort, les différences sont énormes. Mais il y a cette phrase... que d'ailleurs on a lu le Shabbat dernier dans le Pekei Avot, il y a cette phrase qui dit « Vet vaev besofa ». Ça veut dire, la fin du conflit, on ne va pas rester en conflit. Le conflit, c'est un schéma, mais finalement, l'idée, c'est qu'on va, chacun va profiter de l'autre. Par exemple, dans le tribunal, lorsque le tribunal travaille vraiment bien, et on essaie de comprendre une situation. Alors parfois, si il y a un juge, même s'il est très intelligent, il est très érudit, mais il va se tromper. Et lorsqu'il a un adversaire qui ne pense pas comme lui, ça va lui pousser à penser encore plus. Et à ce moment-là, grâce à ça, il va comprendre, il va avancer beaucoup plus. Et la décision va être plus juste que si on n'aurait pas eu de conflit. Et c'est comme ça qu'on voit les Talmud. Dans les Talmud, il y a beaucoup de conflits, mais le but, c'est après tout le conflit, on trouve un moyen qui... quelque part, parfois, là, il a raison, parfois, l'autre, il a raison. Mais parfois, on trouve un troisième schéma que là, grâce aux différentes visions, on arrive à une autre vision beaucoup plus importante. Donc ça, c'est le conflit intellectuel qui a mené au conflit. On trouve des conflits chez nous. Mais encore, chez nous, là, chez nous ça veut dire dans l'esprit de la Torah, le but, c'est pas le conflit, le but de ce qui arrive après le conflit. C'est pour ça que même le grand conflit qu'on trouve dans la Torah avec Korach, un conflit contre Moïse, Moshe, la Torah, lorsqu'elle déduit ce qu'il faut apprendre de cette différence, de ce conflit, il est marqué dans le Talmud, c'est que lui se garde les différences, à Marzik ben Machloket, il fait il transgresse une loi négative. La Torah nous demande de ne pas être comme Korach. Ça veut dire, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit, quelque part, d'être en conflit dans certaines conditions. Mais il ne faut pas rester en conflit. Il faut finalement trouver comment on s'arrange après le conflit. Alors si maintenant on revient à cette idée, on est dans un monde où il y a beaucoup de guerres, et même lorsqu'on avait l'impression que ça y est, on est dans un monde de paix, les gens ils ont compris, et de temps en temps, ça flotte encore une fois les guerres, soit des guerres idéologiques, soit des guerres d'honneur, moi je supporte pas l'autre, il me dérange l'autre, mais c'est pas idéologique. Et comme on a dit tout à l'heure, parfois, on se dit que c'est une guerre idéologique, mais en vérité, c'est pas du tout idéologique, il y a quelque chose derrière. Mais on est dans un monde de conflits. Et dans tous les domaines, il y a des conflits. Au niveau professionnel, il y a des conflits. On n'a pas besoin de dire, mais c'est évident qu'il y a beaucoup de conflits. Alors, quand on lit la Torah, on a l'impression que parfois, que le conflit, oui, bien sûr qu'il faut terminer avec le conflit, mais c'est quelque chose, ça fait partie de la Torah. Mais selon la vision, en tout cas, selon la vision de la Torah, vue par le Chassidut, vue par l'Abbé de Lubavitch, qu'on avance dans la vie. Même au moment où on a l'impression qu'on recule, en vérité, on avance. Alors à ce moment-là, il y a une période où la guerre elle est nécessaire et on ne peut pas passer à côté de ça. Où on vit, où il n'y aura pas la guerre, à ce moment-là, c'est sur notre compte, ou bien pour vivre et pour survivre, il faut avoir la guerre. Mais il y a une autre période là où on sent plutôt que même au moment de la guerre, on voit plutôt le côté positif. Ça veut dire que s'il faut éviter la guerre, bien sûr qu'il faut éviter, il faut tout faire à éviter la guerre d'une part, mais d'une autre part, même au moment de la guerre, il faut voir que ça va nous amener, voir et attendre comment ça va nous amener vers un monde de paix. Alors finalement, j'ai touché très peu ce sujet parce que c'est un sujet énorme et il y a des petits sujets à l'intérieur de ces mêmes sujets. Mais l'idée de ce que on a appris chez le Rabbi de Lubavitch, parce que dans la Torah même, on peut avoir de différentes visions. Mais ce que le Rabbi de Lubavitch nous a appris et donc nous a poussé vers cette idée qu'aujourd'hui, le monde il est prêt à avoir la paix. Et donc à ce moment-là, même s'il y a quelque part des guerres et des conflits, il faut voir les guerres et conflits comme quelque chose qui nous fait avancer vers quelque chose d'autre. Donc alors à ce moment-là, la guerre, ce n'est pas une vraie guerre. Il y a aujourd'hui, donc on n'a pas le choix. Quand on a une guerre, c'est la guerre. Mais il faut amener le monde à ce moment où, même si on ne peut pas imaginer peut-être le monde sans conflit, parce que par des différentes raisons, il y a beaucoup de raisons pourquoi, comme j'ai mentionné au début. Mais en vérité, la partie du monde, le monde fait partie, donc le monde vit par le conflit. Mais en même temps, il faut voir comment le conflit va nous amener vers quelque chose mieux. Et ça, c'est la vision pour cette période où on se trouve aujourd'hui. Et il y a quelque chose qu'il y a des années de ça, mais encore une fois, dans la vision du Rabbi de Lubavitch, que moi, personnellement, je n'ai pas compris à l'époque. En vérité, même aujourd'hui, je ne comprends pas trop bien, car c'est un petit peu une vision économique. Mais c'était il y a 30 quelques bonnes années, donc il y a presque 35 ans. Le Rabbi a reçu des gens riches qui aidaient la communauté Chabad autour du monde. Et il a fait un discours. Et dans ce discours, que c'était après la fête de Tishri, au début de la fête de Tishri, il a expliqué des choses assez étonnantes. Il a donné des conseils. En fait, il a parlé de la Torah d'une part, mais d'une autre part, il a donné des conseils aux ces gens riches c'était des gens qui ont des affaires énormes dans le monde, etc. Et le Rabbi, il a dit comme ça, parmi les choses qu'il a dit, beaucoup de choses, mais parmi les choses qu'il dit, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on cherche la paix dans le monde. Alors, au lieu de faire que je sens que mon ami qui fait le même métier que moi, ou pas le même métier que moi, je vais lui faire je vais le trouver comme un adversaire. Il faut trouver un moyen de faire des affaires ensemble. Ça veut dire que normalement, dans le monde, pour réussir, il faut, c'est ça, on réussit grâce aux différences. Moi, je ne fais pas comme l'autre. Je suis quelque part en conflit avec l'autre, j'ai fait plus d'efforts que l'autre, alors grâce à ça, je vais gagner. Mais là, cette fois-ci, le Rabbi a dit qu'ils doivent, au lieu de d'être adversaires, ils doivent plutôt être associés avec l'autre. Que jusque-là, j'étais adversaire avec lui, et comme ça, on va gagner plus. C'est une vision que d'ailleurs aujourd'hui, depuis donc, on a vu beaucoup le monde, ça fonctionne, ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de conflits dans le monde, mais on a beaucoup vu cette idée qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sont réunies ensemble pour pouvoir gagner de plus, perdre moins. Mais ça, c'est une vision intéressante que normalement, classiquement, on dit que pour gagner, on disait à l'époque que pour gagner, il faut que chacun il renforce ses opinions. Et aujourd'hui, on cherche à se réunir avec les autres pour pouvoir faire mieux. Donc, alors si on conclut un petit peu, parce qu'encore une fois, c'est un sujet très large, mais il y a des guerres, il y a des conflits. On est dans un monde qui, quelque part, il est né à l'intérieur, il est né dans les guerres, il est né dans les conflits. Tout de suite, Adam, et lorsqu'il est né, tout de suite, il y a un problème de l'arbre qu'il doit pas manger, mais ce n'est pas seulement l'arbre, c'est une idée. Ça veut dire tout de suite, il y a quelque chose adversaire qui flotte devant lui, et les problèmes commencent, et on est dans les problèmes. Mais à ce moment-là, on peut voir le problème comme un vrai problème. Selon cette vision qu'on vient de dire, le problème aujourd'hui, en tout cas, après des années où on a essayé, on a fait pas mal de choses, aujourd'hui, il faut, si possible, en tout cas tant que possible, faire en sorte que les conflits se terminent bien. Tant que c'est possible, il faut être pas naïf non plus et fermer les yeux et ne pas remarquer les problèmes. Mais il faut plutôt voir les conflits comme quelque chose que nous avons, c'est trouver finalement comment on peut arriver à la guerre après ce conflit. En tout cas, puisque c'est ça la vision, cette vision messianique, finalement, après le conflit, on va arriver à quelque chose de positif, on va arriver à ce monde qu'on attend, un monde de paix, que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne le voit pas tellement possible, mais c'est parmi les prophètes, la prophétie messianique. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Je profite de vous souhaiter ce qu'on souhaite à la veille de l'année, que tu vas une bonne et douce année. Merci.